Bienvenue à tous dans Cheatlist, l'émission de Retour Vers le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, place à la gajolade et autres calembours puisque nous allons enfin nous attaquer à une partie de notre patrimoine filmique, les comédies françaises. Le Dîner de cons, La Chèvre, La Grande Vadrouille, Les Tontons Flingueurs, OSS 117, La Classe Américaine, tous ces films qui ont marqué la comédie ne seront malheureusement pas dans cette émission. Aujourd'hui, on va vous causer des films qui superforment dans la médiocrité de cette discipline avec au programme Coco de Gad Elmaleh, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret et Bad Buzz de Stéphane Kazandidjan. Dans ce premier volume de notre rétrospective du pire des comédies françaises, on va essayer pendant une heure à comprendre et analyser pourquoi ces trois films n'ont pas marché ou n'osons pas fait gaulerie comme il se doit. Je suis Luc Le Guenec, et aujourd'hui je suis accompagné des trois plus gros humoristes de France. Karim Berdia du podcast Les Débuts de la Fin, salut Karim.
Salut tout le monde.
Marvin Montes du podcast Final Cut, salut Marvin.
Bonjour.
Et Emmanuel Podon du podcast Le Quoi Pop, salut Manu.
Salut tout le monde.
Et Manu, je vais commencer avec toi parce que je pense que t'as un récit à nous raconter par rapport à ton visionnage, parce que là, on va se concentrer spécifiquement sur comment on a vécu cette expérience de visionner ces trois films. Et Manu, à toi, vas-y, raconte-nous.
Ouais, il s'avère que j'ai pas beaucoup de temps cette semaine pour faire les choses et que j'avais eu beaucoup de flemme, donc j'avais pas maté en avance tous ces films, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs, il faut le savoir, je les ai pas forcément blurés. Je peux vous filer des plans, mais c'est pas des plans très ouf. En tout cas, tout ça a amené au fait que j'ai tout maté en une journée. Et du coup, en fait, je bossais et chaque pause, je mettais un bout de film.
Respectez-la ce soir.
Donc, merci à Bad Buzz de ne durer qu'une heure 13 au passage et aux visiteurs de l'avoir vu un certain nombre de fois quand j'étais gamin, donc de pouvoir le mater en 1,3. On va commencer en l'occurrence par le dernier film que j'ai vu. Du coup, mon état d'esprit en arrivant dans ce film, c'est plus le même. C'est plus le même que ce matin.
Alors, ce qui est bien, c'est que tu expliques un peu ta strat, finalement, un petit peu les making-of de l'épisode. Mm-hmm. Et ça, les gens aiment bien ça. Ça aime bien les petites anecdotes comme ça. Marvin, à toi, comment s'est passé ce visionnage de l'enfer?
Alors moi, ma stratégie a été moins maîtrisée. Disons que je me suis un peu laissé aller. Donc les visiteurs, oui, bon, je l'ai revu il y a quelques temps. En même temps, j'ai revu le 1 et le 2, je crois. Je sais pas pourquoi ils m'étaient passé ça par la tête. Donc,
j'ai
revu. je vis ma vie, quoi, comme un...
Et t'as pas fait le remake US?
Un peu comme une rockstar. Non. Par contre, j'ai vu La Révolution, en fait. Donc, je pense que c'était pour bien me remettre en tête tout le nord. que je suis vu, tu vois. Je me suis dit, voilà, le visiteur verse est complet. Et donc, du coup, hier soir, je me suis dit, allez, je lance Coco, j'y vais, c'est parti. Et j'ai pas pu finir. Donc, je l'ai terminé au réveil.
Yay!
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, allons-y, il faut terminer, il est 9h, on va regarder Bad Buzz, quoi. Donc, de 9h à 10h15, j'ai vu Bad Buzz, qui est un film extrêmement difficile à trouver, comme disait Manu, puisque les fichiers s'autodétruisent sur les sites apparemment. Ce qui est étrange. Il faut choper des liens de stream avec des pubs sur des célibataires de ta ville qui s'affichent toutes les deux minutes. C'est un petit peu troublant.
Mais je pense qu'ils sautent pas parce que pour des questions de droit, ils sautent pour des questions de honte. Parce qu'ils n'assument pas d'avoir fait ça.
Ils s'appellent Bad Buzz en même temps. Hein. Mais c'était assez catastrophique. Je pense que c'est le pire. C'est peut-être le pire épisode, franchement. Dans la préparation, c'est un des pires trucs que j'ai vécu, quoi.
Moi, dedans, il y a mon pire film de shitlist officiel maintenant.
Ah ouais, bah...
Ah, d'accord.
Pas un suspense fou, mais oui, il y a des chances.
Ouais. Merci en tout cas de nous dire ça dans ta petite camisole.
Il y a pas de
petite cellule.
Voilà, tout va bien. Vous avez vu les barreaux.
Et Karim, pour finir, ton parcours, ton visionnage.
Effroyable. Non, je vous ai souhaité calvitie, stérilité pour m'avoir forcé à regarder ces films.
Stérilité, je prends.
Calvitie, c'est déjà fait pour Romain. Hein.
J'avoue. Désolé Romain. Non, en vrai, j'ai tenté d'élaborer une stratégie pareille en mode préparation. Parce que, ouais, c'était vraiment rien que d'y penser, c'était la pire prépa à faire. Et donc, sur ces trois films, de base, il n'y en a qu'un seul que j'avais pas vu. Et je me suis dit, c'était Bad Buzz et je vais me l'enquiller de suite. Et en plus, vu. Ça a été un peu dur, mais il fait qu'une heure 13. Je me suis dit, tiens, je suis chaud, je me débarrasse de ça, je fais Coco derrière. Et la finalité de ces deux merdes finit ma journée vers 23h, tu vois. Et là, je commence à essayer à parler à ma femme, gentiment, tu vois, genre, comment va ta journée? Et je me suis rendu compte que j'étais vénère, en fait. Tu vois, c'est genre, ces deux films m'ont détruit. Ils ont niqué ma vie. Genre, il m'a fallu une heure, un hectare de séquoia pour me dire, en fait, la vie va bien. Donc, alors autant dire que les visiteurs aujourd'hui, en vrai, entre l'expérience passée, machin et tout, ça va, ça va, tu vois, c'est juste faire ses courses à EcoPlus, ça passe. Mais c'est, ouais, non, c'était pas bien du tout. Je sais même pas pourquoi on a fait ça. C'était pour surfer sur l'actualité ou juste pour se faire du mal, parce que c'était.
Non, il y avait l'actualité était un peu creuse là et je me suis dit pourquoi pas se faire du mal, tout simplement, le jackass quoi.
Ouais, t'es revenu aux racines de l'émission quoi. Ok, ben.
Ouais,
En vrai, sur le dernier chez-ti, j'avais souvent dit que ouais, ça va, c'était pas trop dur à préparer, ça fait du bien. Et là, tu m'as attrapé, tu m'as mis un athémi, tu m'as fermé ta gueule. Et voilà. Donc, je ne te remercie pas.
Non, vraiment pas, non.
Eh ben, écoutez, merci messieurs pour ces partages d'expérience. Et on va commencer directement avec Coco.
Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco.
Tu m'as éclaté. Dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête. Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Ben, je veux le top ce soir. Tu m'entends?
Vous êtes arrivé au top.
Je vous laisse sobre.
Sobre.
Dans 6 mois, bar mitzvah du petit.
La bar mitzvah quoi?
C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle.
C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays.
Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté.
Il faut vous opérer le plus vite possible. Vous avez une carte vitale?
J'ai une carte vitale gold. Il faut faire la bar mitzvah dans un mois. Lieu de la fête, le Stade de France. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je veux juste qu'il vole. Il vole! Que les gens ils disent un fou, Coco, son fils y vole!
Coco, sorti en 2009, adapté d'un sketch du spectacle La Vie Normale, écrit par Gad Elmaleh et Caroline Tivel, réalisé par Gad Elmaleh, produit par Gad Elmaleh et Alain Goldman, Canal+, TF1, à hauteur de 14 millions d'euros. Coco, interprété par Gad Elmaleh, riche entrepreneur de 40 ans qui a fait fortune en inventant l'eau frétillante, un mélange subtil d'eau plate et d'eau pétillante. Attention, Marvin, c'est la seule vanne du film, s'il te plaît. Mais Coco a désormais un nouvel objectif, réussir la bar mitzvah de son fils Samuel, qui aura lieu dans 6 mois. Et Manu, pourquoi ce film est dans notre shitlist ce soir ?
Bah écoute, c'est marrant que tu commences par moi et par ce film parce que c'est le dernier, comme je disais, de mon visionnage où j'avais pris deux grosses merdes dans la gueule parce que les visiteurs au visionnage, c'était pas ça quoi. Et il s'avère qu'en partant sur ce film, je pensais que j'allais voir Chouchou. J'avais vu aucun des deux et pour moi, j'ai fait.
Ah oui.
Et du coup, j'ai mis un moment à me dire, mais ça met un certain temps à démarrer. Je pensais pas que ça partait comme ça, Chouchou. Il s'avère que non, c'était pas ça que ça me racontait.
Et handicap majeur.
Handicap majeur, ouais. Mais du coup, à partir de là, je me suis posé la question, mais que raconte ce film ? Et j'ai commencé à le voir comme un drame, en fait, sur un mec qui pète un plomb suite à une mauvaise nouvelle et qui part en dépression et qui fait n'importe quoi parce qu'il est super riche. Et ça marche très bien quand tu vois le film comme ça. Ça marche vachement mieux parce que c'est pas super drôle. C'est vraiment, à la rigueur, ça joue... Alors, c'est un personnage d'un sketch, donc tous les curseurs sont poussés un peu trop loin. Ça se ressent vachement, mais Gad Elmaleh essaye de faire des trucs dedans. Après, il saute aussi sur des sketchs, des trucs comme ça, c'est dégueulasse, ça force. C'est vraiment pas super drôle, c'est encore... ça tente... c'est une sorte d'enfant spirituel de...
La vérité si je mens.
La vérité si je mens, ouais. Avec ce côté humour autour des juifs, mais ça le fait pas forcément aussi bien, quoi. Et du coup, c'est un film assez passable, mais que je verrais plus comme un drame pour le passage de Gad Elmaleh que pour une comédie en général. Je trouve ça assez bizarre que ça se retrouve dans cette catégorie-là. Quoi.
Et en plus, tu notes quelque chose, Manu, c'est qu'on est aussi dans cette espèce d'exploitation de sketch en film. On aura ça, on aura Coco, mm-hmm. on aura Cyprien, il y aura bien d'autres, en fait.
Il y avait eu Brise de Nice, déjà.
Voilà, plusieurs producteurs, en fait, se sont dit « Ah, tiens, ce sketch me fait rire, il dure 5 minutes, c'est rigolo. » Voilà, si on en faisait un film d'1h15, 1h30, et voilà le résultat. Alors, Brise de Nice, il aurait pu très bien finir à la place de Coco, par exemple, parce qu'en fait, oui. Ils se ressemblent, ils ont à peu près les mêmes problèmes, en fait.
Même si Jean Dujardin est peut-être plus naturellement drôle que Gad Elmaleh, quand même. Enfin, je veux dire,
Il a une mimique qui marche beaucoup mieux, je trouve, aussi.
Il marche mieux, quand même.
Il y a un truc que j'ai pas dit, par contre, c'est que... Alors déjà, le film a réhabité un insupportable, et c'est pas la bonne période pour en parler.
Et c'est son premier film populaire. C'est-à-dire que c'est son second film qu'il tourne. D'accord. Et c'est son premier film où le grand public ouais, français peut voir sa gueule, en fait.
Okay. Et Manu Payet, j'en peux plus, quoi. Enfin, il faut...
Infernal. Infernal.
Alors, Manu Payet, dans le film, faut savoir, c'est celui qui joue, en gros, l'organisateur de la bar mitzvah géante qui se déroule au Stade de France. Voilà, Steve. Et c'est un personnage assez insupportable, il faut l'avouer. Je voulais vous dire, En tout cas, nous, on est tous d'accord pour se dire que effectivement, ça a été très difficile comme film. Mais sachez que Gad Elmaleh a eu un plaisir fou à réaliser ce film. Il a kiffé. Hein. La production lui a donné quasiment carte blanche pour aller louer des Mercedes 600 noires, des trucs qui valent 25 000, 26 000, même plus, non, 250 000, pardon.
Pour faire la porcherie.
Le véhicule. Pour faire la porcherie, par exemple. La Mercedes ou des Porsche. Hein, parce qu'il y a les deux véhicules. Il y a aussi des hélicos qui ont été loués. Et aussi le Stade de France qui a été privatisé juste pour filmer la devanture, l'entrée, en fait, pour faire un espèce de festival de Cannes à l'entrée du Stade de France. Et c'est la scène qui a coûté le plus cher. Hein. C'est celle qui a demandé le plus de logistique. C'est celle qui a duré le plus longtemps sur le tournage. Et c'est calamiteux parce que le truc est dégueulasse, en plus. Hein. Et puis, c'est pas du tout impressionnant. Hein. T'as vraiment l'impression d'être, je sais pas, t'as filmé
ça. C'est même pas utile par rapport à l'histoire, en fait, en plus.
Non, du tout. Du tout.
Alors, ça marche dans la démesure, mais ils pouvaient faire quelque chose à plus petit budget, quoi.
Je vais passer à Karim. Karim, quelle était ton expérience sur ce film ?
Ah bah pas bonne. Déjà Coco, moi c'est un film que, ouais, c'est un film que j'avais mal vécu à sa sortie parce que c'est un film qui a été victime d'un matraquage médiatique mais ultra vénère à sa sortie. Et donc déjà c'était un film qui était un peu compliqué à encaisser de par son existence. La vie me l'a fait voir avant ce podcast-là. Et alors je veux complètement.
La vie est une pute quand même.
Ouais non mais tout le temps. Je vais rejoindre ce que vous disiez avec Manu, mais effectivement, on est vraiment déjà sur le film qui est le syndrome du sketch étiré. Ça, déjà, de base, c'est pas une bonne idée, je veux dire. Ça ne marche pas, c'est pas bien. Le film est pas drôle, il en fait des caisses. Le film, ça coûte beaucoup trop d'argent pour que Gad Elmaleh joue son coco dans la vraie vie, tu vois, c'est compliqué. Mmh. Et surtout, ce qui m'emmerde avec ce film, c'est que je le trouve fondamentalement puant. En fait, j'ai le côté que Manu disait, ouais, tu le vois comme un drame d'un mec dépressif, en burn-out, machin, et tout. Ok, d'accord, très bien. Mais je vois quand même une espèce de métaphore de les artistes, les gens qui ont de l'argent, machin et tout, on a aussi nos problèmes. Et j'ai toujours du mal à plaindre les gens qui ont un peu plus d'argent que moi. Alors ça, c'est peut-être pas une qualité.
Ils font beaucoup plus d'argent.
Mais là, c'est vraiment puant parce que c'est. Il y a des moments, Gad Elmaleh qui sait faire le comédien, hein, tente de te faire tirer l'alarme. Le film tente de te faire tirer l'alarme sur des valeurs, tu vois, tiens, genre la famille, c'est important, machin et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Coco, ton film, c'est de la merde. Je veux dire, essaye pas de me tirer un truc moralisateur, va te niquer, tu vois. Et donc, ça m'a rendu ça, mais désagréable de fou. Et en plus, les gags, après, faut se rendre compte, Jacques, la moitié des vannes, si t'avais vu le spectacle avant, tu connaissais les vannes. Tu vivais en 2009, le monde te disait les vannes, parce qu'une fois que t'avais vu la bande-annonce, t'avais vu les vannes du film. Et en plus de ça, le film est vicieux, comme toutes les comédies que je déteste, et qu'au bout d'un moment, il tire tellement sur la corde qu'il va déclencher, en tout cas chez moi, un rire nerveux. Et en vrai, j'ai craqué à un moment, j'avais honte. J'ai craqué.
Quelle vanne.
Sur le moment de la Kipa Cabana. J'ai craqué, mec. J'aime pas Harry Habitant. J'ai rien contre les Kipa, mais c'est pas un kiff. Et là, d'un coup, de voir cet enchaînement en mode, c'est, la scène, elle est pauvre, hein, champ contre champ, il n'y a rien. Mais genre, l'effet où le mec, il sort son truc, là, donc qui est une Kipa beaucoup trop grande, avec des plumes, des joyaux, parce que Rio, Brasil, la Taras. Et qui la met, pardon, et ce temps de pause, et là, et la Kipa Cabana, j'ai craqué. J'ai craqué, mais tu sais, craqué de honte, tu vois. Mais j'ai craqué fort, par contre, tu vois.
Ouais.
Donc, beaucoup. Je vais repasser la main parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, mais c'est pas bien, c'est mal fait, c'est mal rythmé, c'est pas drôle, c'est chiant, c'est plein de poncifs, c'est du ressuscage de tout ce qui avait marché avant. Et en plus.
C'est raciste un peu aussi, en passant.
Bah, c'est complètement raciste.
Ça l'est complètement.
C'est même pas un peu.
Alors, si, j'ai une question, peut-être vous savez. Moi, dans le film, je me suis rapidement vénère quand la vanne principale du film, c'est « Fais pas ton Jean-Jacques ». Je veux dire, c'est dans la rue, tu dis « Fais pas ton Rachid », ça passe pas. Et à la fin du film, il y a quand même marqué « Dédicace à Jean-Jacques ». J'ai eu la flemme. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait qui est ce Jean-Jacques ?
Non.
Non.
Absolument pas.
Alors, ce film est juste raciste. Voilà. C'est pour moi, merci.
Non, mais en vanne raciste, il y en a une, moi, qui m'a mis à terre. J'ai fait un arrêt cardiaque. Un repas d'affaires avec des Chinois. Et les Chinois, à un moment donné, il y a toute une vanne où ils disent « On a kiffé ! On a kiffé !» Oh, t'es là, t'es...
Oui,
oh, putain,
oh, le malaise. Et c'est même pas le film le plus malaisant qu'on va voir.
Non, mais c'est déjà une bonne entrée. Non.
Ouais, celui-là, en fait, ils se rendent même pas compte qu'ils sont malaisants. Les autres, ils cherchaient quand même.
Je sais pas, du coup, ouais, j'ai du mal à comprendre.
On en parlera plus tard. Mais Coco, je pense que les gars, ils sont sûrs que c'est marrant ce qu'ils font. Ils sont sûrs que c'est marrant. Et ça rend le film très, très triste. Très, très triste. Ouais.
Le principal problème du film, c'est que déjà, je trouve qu'il se concentre peut-être sur une histoire qui n'est ni intéressante, en fait. Enfin, y a pas, le personnage, il est déjà développé, tout ça. À la limite, le film aurait été passable, à la limite, s'il se concentrait justement sur ce délire d'eau frétillante. Genre le businessman qui va lancer une espèce de nouvelle idée à la con.
Il aurait été moins dégueulasse.
Et il va se battre, en fait, avec un rival qui est joué par... Il y a le rival, quand même, dans le film. C'est Jean Benigni, Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus drôle Zerbib. D'avoir une confrontation sur le business, en fait. Vraiment, tu sais, où les deux, ils essaient de monter la même chose et ils vont se foutre sur la gueule.
La vérité, si je manque.
Ouais, ouais, mais ça aurait été beaucoup plus drôle, en fait.
Ah, mais il n'y aurait pas eu le du côté moins.
Mais ouais, parce que du coup, il y a ce truc-là bête de, d'avoir coupé ça, en fait. C'est-à-dire que tu vois l'affrontement final, tu vois, le endgame de, des Juifs. Et c'est quand même dommage.
C'est quand même dommage, c'est ce qu'on attendait. Ce qu'on attendait. Non,
Dieu, le Thanos à Schreimel.
J'attendais que ça, moi. Ah, le snap. Pardon, pardon.
La moitié des richesses de l'univers vont se partir.
Pardon, je suis désolé.
Ça a failli être un peu trop sage, donc on est bien.
Entre ça et la liste de Schindler la dernière fois, je vais en découvrir. Je suis le dieu donné du podcast, c'est terrible. Je me sens mal.
Non, mais il faut qu'on remplisse le podcast parce qu'il n'y avait rien à dire, donc c'est très bien.
Il n'y a rien à dire. Mais déjà, cette vanne est drôle. Cette vanne est drôle, déjà.
Ouais, déjà, c'est pas mal.
T'as surclassé Coco en une vanne.
Alors, moi, je voulais parler d'argent, justement.
Non.
En fait, tu parlais, Karim, de matraquage médiatique. Tu sais, vraiment, ouais. Gad Elmaleh faisait le tour des plateaux pour dire, voilà, il allait chez Ardisson, chez Donizo, voilà, pour dire, mon film va être génial, allez-y, ça va être super. Et ça a marché, en fait, la première semaine, il y a eu un putain de hold-up. Il y a eu un hold-up avec 2 millions d'entrées. Mais ce qui est bien avec Coco, c'est que ça a super bien commencé, mais ça a créé une sorte de record chez nous, parce que la deuxième semaine, ça a perdu 80%.
Ah, pas mal.
C'était mérité.
C'est-à-dire que le bouche-à-oreille était tellement naze que les gens se sont dit « Ah ouais, d'accord, c'est un piège, j'y vais pas ». Et pour le coup, bah, le film a quand même fonctionné, parce que c'était... Après, le budget est de 14 millions quand même. Mais recette, 25. Ça aurait pu faire beaucoup plus si le film était qualitatif, était drôle. À la limite, 2-3 vannes rigolotes dans le film d'une heure et demie, ça aurait passé. Et non, et du coup, le film s'est fait éclater. Du fait qu'en plus, il n'y a rien à voir. Parce que déjà, c'est absolument plat. Ouais. Et l'histoire est chiante au possible. On suit juste un mec qui est en train de péter sa crise de quarantenaire pour faire une bar mitzvah à son fils qui n'a pas l'âge de faire une bar mitzvah. C'est ça aussi la vanne du film. Il faut le noter. Et on va finir avec Marvin. Marvin, allez, c'est toi, c'est roue libre. Divertis-nous.
Je sais même pas quoi vous dire. Si ce n'est que c'était pas drôle, en fait. Mais vraiment, tu sais, le problème majeur d'une comédie qui ne maîtrise aucun ressort comique, quoi. C'est, et je pense qu'en fait, le souci par rapport à ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on passe du stand-up, one-man show, au long-métrage, bah, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui manque quand t'es au cinéma, c'est le public. qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en live, alors que ça fonctionne peut-être ou pas. Moi, le Gad Elmaleh-verse, j'y connais que dalle, j'ai jamais rien vu, donc je vous laisserai seul juge de tout ça, mais je pense qu'un sketch comme celui-ci fonctionne certainement quand t'as un public qui applaudit, et tu sais, avec des gens qui réagissent en direct aux vannes.
Et qui font la hola.
Et qui font la hola, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, t'as l'impression que tout tombe à plat, en fait, en permanence, tu vois. Je veux dire, le film, il est commencé depuis 10 secondes. La première vanne, c'est un close-up sur la tête de Gad Elmaleh qui dit « Tu m'as éclaté ».
Ah là, oui, il y a ça aussi, ouais, c'est un running gag dans le film de « Tu m'as éclaté ».
On est parti dans un truc, là. Tu vois, j'ai senti la durée du truc, quoi. Tu vois, ça dure qu'une heure 30, mais c'est terrifiant, quoi.
Je suis d'accord.
Tu soulèves un truc super intéressant, c'est vrai que le tempo comique n'est pas adapté, en fait. Enfin, c'est adapté peut-être à un stand-up, mais pas adapté en film.
Mais c'est pas adapté parce que c'est fait de mimique, c'est fait de gestuelle, tu vois, c'est fait d'une... Enfin, en tout cas, bah, je pense... Après, il y a aussi une expérience de Gad Elmaleh, parce qu'à ce moment-là, on est en 2009, et ça a jamais non plus été un grand acteur, qui fait que, oui, effectivement, c'est pas la même chose devant les caméras que sur scène, quoi. Donc, forcément, non, c'est absolument inadapté au format, quoi. Après, sinon, moi, je suis d'accord avec Karim sur un truc, c'est que le film est absolument détestable dans ce qu'il veut te raconter. Et c'est même détestable de manière méta, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui va te dire « Regarde, parce que tu sais, les nouveaux riches, ils sont tristes. » Mais en même temps, ils sont cons, tu vois, parce que c'est des mecs qui sont pas faits pour être riches et tout, donc ils maîtrisent pas. Et c'est marrant que ce soit Gad Elmaleh qui fasse ça lui-même en tant que quasi-nouveau riche, tu vois. Parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. On a oublié, parce qu'il y a eu, tu sais, des pubs de banque et tout qui sont passées entre-temps.
Ouais, mais il y a eu les comptes en Suisse, il y a eu...
Oui, aussi, mais Gad Elmaleh, à un moment, ça a été quasiment une superstar, hein, dans les années 2000-2010, c'était assez fou, tu vois.
Bah, ça, c'est son pinacle, en ce moment.
C'était extrêmement bling-bling comme truc, tu vois. Donc, en fait, le grief majeur de ce truc-là, c'est que j'arrive pas à saisir l'intention. Est-ce qu'on est sur un truc pseudo-dramatique, un peu méta, tu sais, un peu autobiographique de merde, du genre, c'est difficile, la vie, faut pas oublier sa famille, t'as vu, parce qu'au final c'est ça la seule chose qui compte. Et tu vois, est-ce que c'est censé être une comédie véritablement? J'en ai aucune idée. Je sais que Romain, tu vois, disait en off avant, avant que c'était le Joker, quoi. Mais oui, c'est le Joker d'Adel Malek, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il a la même trajectoire quasiment, tu vois. Donc, et d'ailleurs, la même coupe de cheveux. Ce qui est intéressant à relever. Mais non, sinon c'est très mauvais. Tout le monde joue mal, c'est une catastrophe. Jean Benguigui à Gad Elmaleh, il dit qu'il est ultra fan et qu'il voulait absolument. Je comprends pas comment on peut être fan de Jean Benguigui. Et Manu Payet, effectivement. Manu Payet, c'est ouais.
Jean Benguigui, c'est celui qui s'en sort le mieux.
Ouais, mais bon, tu sais, à quel niveau, au bout d'un moment, on regarde le reste.
Et
Manu Payet, il mérite de se faire fusiller, quoi. De payer la balle. Mais comme en Chine. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Oh la vache.
Non, c'est vraiment une catastrophe.
T'es pas censé prendre des trucs pour te calmer, toi, en ce moment.
Non, mais si, je suis calme, là. Je suis vraiment calme. Hein. Je préchauffe. Mais non, ouais, c'était vraiment tout pourri. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça a été un très long moment. Ça n'a jamais été drôle, quoi. Donc merci de m'imposer ce genre de choses. Je suis vraiment de plus en plus heureux de faire cette émission.
Pour finir, Marvin, t'avais soulevé quelque chose. Effectivement, ce côté méta où tu détestes l'acteur, tu te dis en plus, il raconte à moitié sa vie du mec qui a réussi le one self man. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais mec, maintenant, tu sais, quand tu connais toute l'histoire du mec qui a quand même sacrément pompé les stand-up américains,
ouais,
les grands acteurs, Seinfeld ou tout ça.
Ouais.
Tu te dis maintenant, quand tu vois le mec qui est en train de dire, bah oui, ouais, je me suis fait un peu tout seul, je suis un vrai gars. Et c'est vraiment un putain de foutage de gueule, quoi.
Je voulais vous partager mon moment honteux où j'ai craqué.
Ah, merci.
J'ai craqué sur la vanne la plus raciste du film. C'est-à-dire le moment où le préfet qui est fondamentalement, vu qu'il est préfet raciste, du coup, parce que c'est comme ça que le film te le présente.
Vibe UMP.
Voilà, vibe UMP, mais vibe...
Et au-delà du UMP.
Donc, le moment où il rentre dans la maison et où il y a une erreur de musique avec la mère qui arrive et qui fait ça, à ce moment-là, je me suis fait cueillir.
C'est magique.
Tu vois, genre... ouais, voilà, je me suis fait avoir par ce truc nerveusement, tu vois, je pense vraiment.
Vous avez des moments honteux aussi où vous avez craqué, Manu? Voilà,
pas sur ce film-là, non. Sur les autres, oui, mais pas sur celui-là.
Et on va passer directement à notre deuxième film, et ça va être Les Visiteurs.
Qui sont-ils? Les Visiteurs. Donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort.
Ils vous ont pris une tronche, j'ai assez de pochetronnés.
Silence, maintenant, tu vas prendre une claquade.
Christian Clavier. Les Visiteurs.
Ah, c'est des malades.
D'où viennent-ils?
Je viens simplement de très très loin.
J'appartiens au comte depuis que j'ai eu 2 ans.
I care.
Viens, mon fidèle.
Oh, grand merci, Seigneur.
J'ai droit de vie ou de mort sur mes terres.
Jean Reno. Les Visiteurs. Que cherchent-ils?
Ah, oh, la belle femme. Ah,
je préfère dormir dans la forêt.
Oh, le grand que ne soit pas.
Valérie Le Mercier.
Eh ben...
Les Visiteurs. Quelle langue parle-t-il?
Quoi, ça pue?
Bonjour. Quoi, c'est laid?
Saint-Denis.
Qu'est-ce qu'il demande de rançon?
Ça n'est pas illuminé, c'est de la merdasse.
Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin?
Pourquoi sont-ils si affreux?
Pas avec votre bonjour. J'ai des serpillères.
Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
Les Visiteurs, sortis en 93, produit par Gaumont, France 3, Canal+, et Jean-Marie Poiré, avec un budget de 9 millions d'euros, réalisé par Jean-Marie Poiré. Scénario issu d'un brouillon de 4 pages écrit dans un cahier d'école par Poiré quand il avait 16 ans. Et réécrit avec l'aide quand même de Christian Clavier. Merci Christian. Les Visiteurs, c'est l'histoire vieille comme le monde du poisson hors de l'eau, où nous suivons deux gogoles du Moyen-Âge qui doivent progresser et s'adapter au monde moderne. Le comte Godefroy de Montmirail sous les traits de Jean Reno et son serviteur Jacouille vivant au Moyen-Âge. Par magie, ils sont transportés dans le temps afin que le comte puisse éviter la mort accidentelle de son beau-père qu'il a tué il y a de temps. À la suite d'une erreur d'ingrédient, au lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés du 12e siècle à la fin du 20e siècle. Karim et les Visiteurs est le plus grand succès en salle de cette année 93. Mais pourquoi est-il dans notre shitlist ce soir?
Ah, tu me poses des questions bien étranges. En fait, c'est... Les Visiteurs dans cette liste ce soir, c'était super compliqué parce qu'ils faisaient partie des films qui pour moi étaient... qui sont même toujours basiquement mauvais. Mais tu sais, quand tu dois les regarder... pour devoir trouver quelque chose à dire, tu te dis bon, je vais quand même trouver le moyen d'en parler, et surtout tu l'accommodes à ton contexte de visionnage. Et je répète ce que je disais en début d'émission, je l'ai regardé à la fin. Et donc, alors vous allez m'entendre dire souvent, en fait Les Visiteurs ça va pas, mais à encaisser dans l'expérience, ça va, voilà, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc après Les Visiteurs c'est un film, c'est... Comme tu disais, en fait, c'est con comme le monde, comme histoire. Mais après, moi, c'est des histoires qui me feront toujours marrer de voir deux personnes complètement incompétentes dans un monde qui ne maîtrise pas. Moi, c'est des gars qui me feront toujours rire. Donc, c'est un film, en fait, qui qui m'a fait rire, en fait, encore une fois, un petit peu, sur la première partie du film. J'ai même pas envie de vous raconter le film, parce que tout le monde le connaît, mais tu vois, le côté de deux handicapés sociaux dans une maison. Alors, le jour-nuit, c'est pas drôle, machin et tout, mais il y a un moment, il y a des petits craquages qui se passent. Après le film, j'ai tendance à le détester, non pas tant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a provoqué dans ma vie, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, en 93, j'ai 8 ans.
Le remix techno.
Ouais, le remix techno. Et puis surtout, toutes les expressions.
Ah ouais.
Tu vois, c'est, il n'y a pas marqué la poste. C'est rien à côté de tout ce que peut dire Jacouille la fripouille. C'est un enfer.
Okay. Hein,
c'est dingue. Je les ai encore, tu vois, tu sais. Et même sans avoir vu le film, je les avais encore, tu vois. Et c'est en fait, ce qui est chiant avec ce film, c'est qu'en soi, il est, pour moi, il est, franchement, il est passable. En vrai, je veux dire, c'est pas une catastrophe comme j'avais pu me motiver mentalement ces dernières années. Mais c'est juste, en fait, son statut de film culte, non. Qu'est-ce qui se passe avec les comédies françaises qui deviennent cultes comme ça?
C'est ça la question que je me posais, c'est pourquoi il a fonctionné, ce film, plus qu'un autre.
Il y a des vannes, en fait. Ok, franchement, il y a des vannes. La première fois que tu les vois, je peux comprendre, tu... Ouais, t'es peut-être pas prêt, ça fait marrer, tu l'as peut-être pas vu un million de fois parce que les années 90, que tu veux dire. Mais de là à ce que ça prenne cette ampleur-là, encore maintenant, que ça fasse une trilogie, que ça fasse un remake aux US, que bientôt tu vas y avoir une photo de l'Assemblée nationale, c'est pas possible, c'est fou. C'est complètement fou. Et donc, je comprends toujours pas ce qui rend le film. À partir de la moitié du film, il devient chiant parce qu'il devient très mal fait, beaucoup trop de courtes focales. C'était marrant une fois ou deux sur les poireaux, mais voilà. Mais après, ça devient vite chiant et t'arrives juste plus à comprendre avec 20 ans, 30 ans de recul. À quel point, en fait, ça a pu marquer, en fait. Donc, ça rend le film super. Ça te rend chelou. Ça te rend ultra chelou. Parce que je pensais l'attaquer sur des trucs faciles. Genre, ouais, c'est un film raciste, machin, et tout. Et même pas, en fait. C'est juste con comme une bite, ce film, quoi, je veux dire. Donc, ça donne des trucs qui sont... C'est juste lourd. C'est juste ultra lourd. Tout le monde en fait des caisses. Il y a des gens qui disent « Valérie Mercier, elle était extraordinaire, machin, et tout. » Non, mais arrêtez, les gars. Je veux dire, c'était marrant 3 minutes, quoi, je veux dire. C'est top, quoi. Donc il y a ouais en fait voilà c'est voilà encore toi c'est pas une catastrophe. Moi je comprends pourquoi il est là ce soir parce que c'est pas tellement pour ce qu'il est, c'est pour ce qu'il a amené et une espèce de sillon qu'il a laissé qui pour moi en fait c'est juste dans le domaine de l'incompréhensible en fait. Donc voilà, donc c'est un film qui me laisse très 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 interrogatif. Et encore que en vrai le film me même un peu baisé juste finir là-dessus. Genre quand j'ai revu le début juste la partie médiévale, je me suis dit putain ces connards en fait, j'avais pas capté mais ils ont fait une pâle copie vraiment de Sacré Graal des Monty Python, tu vois.
Ouais.
Et mais en vrai pendant vu que tu le regardes enfin pareil avec 30 ans de recul et en disant tiens, je vais trouver des trucs à dire dessus, limite pendant 10 minutes j'étais en mode bon, oh, c'est cheapos, mais bon, voilà, au moins ça prouve qu'ils ont quand même des aspirations qui sont pas dégueu. Après le film te bute au bout du trois quarts d'heure de film, t'en peux plus là de Irène Chazelle et des expressions de c'est ok, de tout ça, des placements de produits, c'est compliqué. Voilà, compliqué. Donc,
mais Chazelle, près de partout, on la retrouve plus tard.
Oui.
L'oublions pas.
Alors, ouais, c'est un truc, ouais, voilà, je l'ai beaucoup trop vu pareil. Je suis pas spécialement fan, mais alors là, en deux jours, elle était beaucoup trop présente dans ma vie.
On va juste préciser un point, vous avez parlé de Valérie Le Mercier, mais sachez que Valérie Le Mercier a reçu le César du meilleur second rôle féminin, 94. Pour cette performance de double interprétation de Béatrice dans le présent et de Frénégonde au Moyen-Âge. Voilà.
Frénégonde.
Et les visiteurs avaient été nommés dans 7 catégories, dont celle du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Et c'est une des rares comédies françaises à avoir fait un hold-up comme ça au César. Hein. Parce que généralement, les comédies populaires françaises comme ça, elles sont un peu blacklistées sur les Césars.
Les chefs-d'œuvre. Hein.
T'es trop jeune pour le contexte, peut-être, mais peut-être que c'était vraiment différent à l'époque, je sais pas, tu vois.
On y reviendra un peu plus tard. Marvin, on va suivre avec toi.
Ouais, bah moi je un peu comme Karim, hein, je l'ai quand même pas mal vécu gamin. Hein. Peut-être même. Alors je sais plus c'est quoi, c'est 93.
Ouais.
Donc je l'ai pas vu en salle puisqu'en 93 j'avais 4 ans. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être plutôt Les Visiteurs 2, Les Couleurs du Temps qui étaient hype quand j'étais gamin, tu vois. Mais je me rappelle quand même que c'était un phénomène. Les Visiteurs, c'était dingue, quoi. Tu vois, je veux dire, à ce moment-là, quand il y a eu le 2, même, tu vois, une fois que les deux premiers étaient sortis, tout le monde connaissait les films par cœur, tout le monde voulait les voir. Et en fait, ce que je me suis dit en revoyant, en me refaisant un bilan du Visiteur Verse, quoi, pour me préparer au dernier volet, qui comporte la meilleure vanne de la saga, mais je vous la garde pour après, c'est que ça vieillit très mal. Ça vieillit extrêmement mal. Autant esthétiquement, parce que je pense que enfin le JMP verse, donc le Jean-Marie Poiré cocaïne univers, qui est quand même un univers étrange, un étrange monde parallèle du cinéma français où le montage ne comporte pas de plan de plus de 4 secondes.
Et c'est moche au niveau de la photo. Je précise, il était quand même photographe à sa début de carrière, lui. Hein.
Oui, bah, bien sûr, c'est.
Et il a arrêté. Pourquoi ?
Parce que, voilà, pourquoi ? Est-ce une coïncidence ? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est assez moche. On dirait un numéro d'Échappée Belle, quoi, si tu veux. Ça ressemble un petit peu à ce genre de truc, quoi. Mais, et surtout, ça vieillit mal en termes de vanne, quoi, tout bêtement. Je veux dire, moi, je pense à ce pauvre postier, le sarrasin dans sa chariote du diable. Voilà, si vous vous rappelez de la réplique, c'est quand même un mec qui est devenu une sorte d'icône malgré lui, quoi. Ils l'ont même mis sur l'affiche, quoi. Donc, voilà, on retrouvera même, il y aura des récurrences puisqu'il reviendra dans le 2, quoi. Mais non, ouais, après, moi, je vais être très court là-dessus parce que c'est vraiment un film que je crois que j'ai jamais plus que ça apprécié. Moi, je suis déstabilisé parce que je vais vous raconter une histoire perso qui me fait beaucoup rire. C'est que quand j'écumais encore, dans une époque qui est quasiment révolue maintenant, le monde du travail traditionnel, j'avais une collègue qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à chaque fois la fripouille, et ça me déstabilise. ça me déstabilise à chaque fois que je vois le film. Je la citerai pas, mais j'ai l'impression de la voir et c'est terrifiant, quoi. Donc, voilà, c'est à peu près tout l'effet que me fait Les Visiteurs. J'ai pas beaucoup plus à en dire. Je vous conseille de regarder là. Deux choses, c'est Les Visiteurs, la Révolution, qui comporte la meilleure vanne de la saga, parce qu'il y a une vanne avec des nazis, ce qui est vachement plus marrant.
qui arrive à la fin, il me semble.
Qui arrive à la fin, ils arrivent là, et puis je crois qu'ils disent « Ah, mais ces châteaux forts ont de drôles d'emblèmes, tu vois, et c'est des croix gammées partout. » C'est le moment où tu rigoles nerveusement. Et sinon, il y a notre ami Stéphane Boulet qui a fait un montage vidéo que vous pouvez trouver à la demande de Daniel Andreev, qui est déjà passé dans cette émission. En fait, à un moment, dans Les Visiteurs, la Révolution, il y a une phrase qui revient souvent, c'est « il n'y a plus de lait ». Voilà, parce qu'il cherche du lait à un moment, et il n'y a plus de lait. Et donc, Daniel avait demandé à Stéphane de faire un montage de tous les « il n'y a plus de lait » du film. Donc, c'est une vidéo qui existe, et je vous encourage à aller la voir. C'est assez rigolo. Voilà, c'est tout. Je voulais rendre hommage à leur travail. Mais c'est à peu près tout.
C'est beau.
Mais, d'ailleurs, juste à partir sur Les Visiteurs 3, il me semble que la vanne « il n'y a plus de lait », c'est un truc, en fait, où ils disent ça tout le temps, mais ça, c'est pas une vanne, en fait.
Non, il n'y a plus de lait. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus de lait. Au moment où ils cherchent du lait, il n'y a plus de lait dans la ville. La vache, elle est à grève, il n'y a plus de lait. C'est vrai, voilà, c'est tout.
Ah,
non, mais... Et clairement, ça, je peux pas en rajouter.
Fatigué.
Non, mais c'est fou. C'est fou, on dirait du Quentin Dupieux, tu
vois. Il existe une vidéo des « tous les « il n'y a plus de lait ». Voilà. Elle existe.
Eh bien, merci pour cette info, Marvin. Je vais vous donner une autre info qui va aussi vous décorcher le cul.
Quoi ?
Je sais pas, j'ai balancé... Je sais pas, j'ai décorché le cul. Je me suis dit que c'était pas mal et c'était un peu apprêté aux visiteurs. Donc, plus grand succès en salle, 93, 13,7 millions de spectateurs. Et bien sûr, on se dit grand succès. Est-ce qu'on peut l'exporter à l'international ? La question se pose et heureusement qu'il y a les meilleurs dans le domaine. Miramax, donc studio des frères Weinstein, donc les grosses sacs à merde. Donc, eux, leur plan, qu'est-ce que ça a été pour essayer de l'exporter à l'international et se faire un peu de fric ? En fait, ça a été de carrément dire, voilà, le film, les vannes en français, personne ne va les comprendre. Donc, il va falloir qu'on fasse un doublage intégral.
C'est ça.
Et ce doublage intégral va être géré par Mel Brooks, qui est un des plus grands comiques américains de tous les temps. Et le truc, c'est qu'effectivement, il a été payé pour réécrire ses dialogues et les enregistrer avec une troupe de comédiens. Il a été payé un demi-million de dollars et ils ont fait donc cette test en disant, on a redoublé, on va passer ça en test. Ça a absolument pas marché. Ça a été terrible. Ça a été de la grosse merde. Et pour le coup, Miramax avait encore les droits de distribution. Donc, la seule solution pour, rentabiliser leur achat de distribution, en fait, ils vont faire un truc inédit aux États-Unis qui se fait pas très souvent et que le marché américain déteste ça, c'est de sortir le film en version originale avec des sous-titres. Et forcément, ça a beaucoup moins marché. Et d'ailleurs, les sous-titres ont été supervisés, les sous-titres français ont été supervisés par Chris Columbus, le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et d'Harry Potter. Voilà, c'est la petite fun fact absolument nul à chier. La deuxième solution pour essayer de faire un peu de fric effectivement aux États-Unis, ça a été de faire un projet de remake justement avec Les Visiteurs en Amérique. Grand plaisir. Et on va finir avec Manu. Manu, ton rapport avec Les Visiteurs.
Bah écoute, le premier, je l'ai pas mal vu en VHS quand j'étais gamin. J'ai pas vu au ciné. Le 2, pas très fan. Mais ouais, le premier quand j'étais gamin, ça passait vachement bien quoi. Là, au revisionnel, je pense que ça faisait 20-25 ans que je l'avais pas vu, puisque je suis vieux. Et il y a des trucs que j'avais oubliés. Je me souvenais plus du début où il y a quand même... Il y a des morts, il y a de la sorcellerie.
Ouais.
Ça tente des trucs visuellement ou dans le. Ouais, voilà, une histoire, ça tente des trucs. Ce côté-là, au début, je me suis dit, ok, pourquoi pas, c'est cheapos, mais pourquoi pas. Mais je me souvenais qu'au moment où c'est arrivé dans le présent, je me disais que j'allais avoir du mal et j'ai eu beaucoup de mal. Principalement avec Christian Clavier. Les deux rôles.
Deux fois.
Ouais, les deux rôles, impossible. Marianne Chazelle, pareil. Je supporte pas à la rigueur la partie Valérie Le Mercier, Jean Reno. Pourquoi pas, c'est débilos, mais à la rigueur, les acteurs le portent bien. Valérie Le Mercier me fait beaucoup rire quand elle parle de temps en temps. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent « Ok, Valérie Le Mercier, un peu... » Enfin, dans le film, hein, je veux dire. Je trouve qu'il y a certains dialogues où c'est, le dialogue a beau être nimp, c'est pas grave, l'intonation fonctionne. À côté, je me suis un peu fait chier, quoi. Je l'ai revu en vitesse 1x3, comme je disais tout à l'heure, version accélérée. Ça m'a pas perturbé, ça ne nique pas le rythme. Le rythme fonctionne à peu près, mais l'histoire est pas super intéressante, les personnages et l'humour sont pas super intéressants. Je suis plutôt de l'avis de Karim quand il dit que c'est, globalement, c'est plutôt passable, en fait, comme comédie française. Et c'est juste que ça a été un phénomène à ce moment-là et que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais ouais, mon avis ira pas beaucoup plus loin que ça, en fait, parce que certes, je trouvais sûrement ça plus drôle quand j'étais gamin, mais c'est pareil, le phénomène me faisait déjà chier et c'est pas un univers qui méritait 3 films, quoi. Je comprends pas.
C'est terrible à quel point il y a rien à en dire, en fait. C'est
si, un peu quand même, dans le sens où je pense savoir, enfin. J'ai déduit un petit peu pourquoi ça a fonctionné, c'est que, en fait, c'est un film de la troupe du Splendide, hein, tout simplement. Oui, avec, en fait, c'est le retour vers le futur de la troupe du Splendide. Donc, non, mais en vrai, c'est ça. Donc...
Ouais, t'as raison. Et puis, il y a le modèle aussi qui est souvent rigolo du, tu sais, le fameux Fish Out of the Water, quoi.
Le poisson hors de l'eau, ouais.
Voilà, c'est ça. C'est prendre des personnages d'un espèce d'univers, les placer dans un autre univers, regarder ce qui se passe. C'est presque une étude sociologique, si vous voulez, qui mériterait d'être présentée au plus grand monde. C'est le Wonder Woman de Jean-Marie Poiré. Oui, c'est ça. C'est le même principe quand tu regardes. Hein. C'est ça, c'est le poisson hors de l'eau.
Ah oui.
À part ça, voilà, moi, c'est un film que je trouve quand même terriblement creux, quoi, tu vois, je veux dire, il y a même pas cette petite pointe de malaise qu'on a avec les deux autres, tu vois, et même pas, quoi, c'est juste, voilà, et puis je les trouve pas particulièrement drôles, tu vois, par exemple, Jean Reno, c'est pas quelqu'un que je trouve très drôle, quoi, vraiment.
Aucun il a pas de potentiel comique.
Non, pas trop, non.
On va finir sur le plus grand film, le plus grand chef-d'œuvre de la comédie française dans ce qu'elle a fait de pire, avec Bad Buzz.
T'as vu ou pas?
De quoi tu parles?
Mais de la photo!
Quelle photo?
T'as la soirée, ils ont foutu ça sur Twitter, il y a plus de 50 000 vues.
Vous êtes con, vous êtes jusqu'où? Vous avez 48 heures pour faire un bon buzz avant que le prod ne découvre vos conneries et vous vire sur le champ, Codelec.
Je vais pas faire un selfie avec ma grand-mère morte.
On sent que c'était quelqu'un de joyeux.
Ah oui, c'était une grosse déconneuse.
On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça fait un bon buzz. Les gens vont adorer.
Ça ne tient pas! Mais ça ne tient encore pas! Mais ça fait quelque chose! Mais crache pas sur ma grand-mère!
Bad Buzz, sorti en 2017, produit par Abel Namias, producteur de Cinéman et La Beuse, Eurobar Corp et TMC, avec un budget de 4 millions d'euros, écrit par le duo Eric. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, de dire son nom, c'est Metzger, je ne sais pas trop quoi.
On dirait Eric et Quentin.
Eric Le Tocard, on va l'appeler. Et Eric Le Tocard et Quentin Margot, plus connus sous le nom de Eric et Quentin, et réalisé par la crème de l'humour français Stéphane Kazandijan, qui nous avait régalé avec Sexy Boys en 2001. Bad Buzz nous fait suivre une aventure quasi méta puisqu'on retrouve Eric et Quentin en animateur star d'une émission pour enfants, un peu comme Le Quotidien, on dirait, diffusée chaque matin à la télévision, mais un soir, des photos compromettantes vont générer un immense buzz négatif sur les réseaux sociaux. Cela prend immédiatement des proportions gigantesques. Pour sauver leur carrière, ils vont devoir inverser la tendance et créer un buzz positif. Vous voyez un petit peu ce plan et toute cette idée de merde qui va être Bad Buzz et Marvin Bad Buzz. Est-ce que c'est quand même une expérience?
Franchement,
c'est dur de commencer là-dessus.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je connais pas Eric et Quentin, moi, là-bas. Je sais pas qui sont ces gens, déjà.
Je te fais vite fait.
Topo, ouais.
C'est en fait, donc, c'est un duo d'auteurs et d'acteurs. En fait, ils collaborent depuis les années 2000. Ils ont bossé ensemble sur les sketchs du SAV des émissions sur Canal+. Donc avec Omar et Fred, là, l'émission d'Omar et Fred. Et en fait, ils ont été connus grâce à Yann Barthès, qui nous a fait
journal, ouais.
Plaisir, en fait, lui, à faire connaître plein de gens qui sont insignifiants. Et en fait, voilà. Et Eric et Quentin, en fait, ils avaient une petite chronique, en fait, tous les jours, où ils faisaient des vannes. C'est censé être drôle. Ça ne marchait jamais, mais on ne savait pas pourquoi c'était encore à l'antenne pendant des années. Mais ça a fonctionné. Ouais. Et maintenant, en fait, ils ont eu cette idée. Enfin, le film, en fait, s'est monté grâce à cause du producteur qui s'est dit « Ah, mais j'adore ce que vous faites, on va faire un film. » À peu près comme... voilà. C'est un autre problème de la comédie française, c'est que, en fait, une fois qu'on a fait disons les stand-up, on les a étirés pendant 1h30. Bah, cette fois-ci, on va faire les duos, les animateurs télé, là, ils vont faire des films.
Pastille.
Mmh. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est terrible. Donc, je te laisse reprendre Bad Buzz. Voilà.
Ok, je suis content d'apprendre ça, du coup. et en fait, c'est terrible parce que c'est peut-être la première fois de ma vie que je vois un film qui ne comporte pas une seconde, qui ne soit pas cringe, mais jusqu'en enfer, quoi. Jusqu'en enfer. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi malaisé.
Heureusement, ça dure 1h13.
Je pense que Salaud ou les 120 jours de Gomorre, ça passe mieux, quoi. Enfin, vraiment, oui. Je veux dire... Non, vraiment, j'étais très mal, et j'ai pas compris, et j'étais pas mal... Moi, j'étais mal pour eux, tu vois, Et d'ailleurs, je crois que même eux, ils assument pas du tout ce film, qui disparaît des internets de manière improbable. J'en ai parlé avec des gens avant de le voir, qui m'ont dit... Je suis curieux de savoir ta source parce que nous on n'arrive pas à le voir. C'est une sorte d'objet de fascination, de culte.
Non mais ce qui est drôle, c'est que personne n'arrive à le voir ou difficilement, ou ils sont obligés de payer. Mais c'est qu'en plus la production, les gens qui veulent s'intéresser à la production du film, c'est pareil, c'est l'omerta.
Oui, il y a pas le droit. Voilà, c'est une catastrophe.
Non, mais il ne s'est rien passé.
Et non, il ne s'est rien passé quoi. Et je sais même pas quoi dire tellement c'est terrifiant. Enfin déjà le si on sépare les choses qui vont pas. Déjà, le bad buzz en lui-même. Déjà, essayons de comprendre le bad buzz en lui-même, qui est en fait... C'est-à-dire que deux animateurs d'une émission pour enfants se retrouvent accusés de participer à une partouze zoophile nazie. Déjà.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Voilà le postulat de base. Tu vas faire quoi ? Donc, bon, déjà, ça commence comme ça. Et non, mais j'en rajoute pas. C'est juste, c'est juste comme ça que ça se passe vraiment. Alors ensuite, il y a beaucoup de choses. Et moi, je vais compartimenter en deux trucs. Déjà, il y a l'histoire des migrants. Alors.
Ah oui.
Alors, déjà, sujet touchy. C'est-à-dire que... Je laisserai Manu. Manu, je crois que ça l'avait un peu marqué tout à l'heure, donc je laisserai raconter l'histoire de ce qui se passe avec les migrants. Et moi, il y a quelque chose dans ce film qui me touche particulièrement parce que c'est vraiment incroyable. C'est l'histoire des deux trisomiques. qui sont... Mais j'étais mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui d'où sortent ces vannes ? Qui écrit ça ? Écoutez bien. Les trisomiques ont des grosses bites, voilà. Non mais voilà, vous avez le socle du film.
La moitié
du film. Le socle, vous avez...
Oui, il ne ment pas en plus.
Non, je ne mens pas. Le film est bâti sur les trisomiques ont des grosses bites. Voilà, je veux dire, je suis même pas en train d'en rajouter. C'est exactement ce qui se passe. Et ils sont capables d'ailleurs de satisfaire des femmes insatisfaites depuis très longtemps, puisque c'est un petit peu le climax du film à ce moment-là. D'ailleurs, c'est une des scènes les plus malaisantes que j'ai vues de ma vie.
C'est quasiment un viol.
Il y a quasiment un viol, quasiment une femme.
Durant un enterrement.
Qui se fait violer par un trisomique.
Non, moi je dirais que c'est plutôt elle qui viole le trisomique, mais.
Oui, c'est plutôt elle. Oui, disons que les rôles peuvent s'inverser. Mais il y a ça. Voilà, il y a ça. En tout cas, il y a un détournement de handicapé. Voilà. Alors, c'est une petite idée de ce film qu'on comporte des milliers. Hein. Je vous passerai les blagues avec la grand-mère. Enfin, je veux dire, je sais pas. J'étais tellement mal. J'étais vraiment mal. Ça dure 1h13. Mais c'est de la folie. Alors, je sais pas, pour terminer, si je dois vous dire d'aller voir ça ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont une petite fascination pour ça. Des gens, certains sont un peu proches de moi d'ailleurs, qui ont vraiment des stan accounts, hein, comme on dit, de Bad Buzz. Tu vois, je sais pas. Il y a un truc, c'est une sorte de.
À vous, c'est Erwan.
Non, c'est pas Erwan. Je dirais pas qui c'est. Mais vous trouverez si vous cherchez un peu, c'est facile. Mais en tout cas, il y a des vrais fans. Il y a un côté un peu, tu sais. Communauté de nanardeuses autour de ce truc-là et je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas du tout. En tout cas, c'est le cringe absolu, quoi. C'est la matrice du cringe. Donc voilà, faites ce que vous voulez de ces infos-là, quoi, mais faites gaffe, quand même. Faites gaffe.
Donc là, en fait, vous avez le retour de quelqu'un qui a vécu l'expérience de plein fouet. Et maintenant, en fait, il faut parler aussi peut-être du contexte de production qui est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'infos, en fait. Les infos, elles sont assez verrouillées. Parce que vous savez que le film a tellement été un désastre à la fin, à la version finale, quand ça a été livré au producteur, que même EuropaCorp a refusé les critiques presse en ne proposant aucune projo presse. Et ça, c'est un truc qui souvent annonce en fait dire attention mon film c'est de la merde.
Bah quand le film a une étoile sur la plupart des trucs de notation, c'est déjà.
Vous remarquerez que sur Allociné, le film a 0,9 étoiles sur 5 sur Allociné côté spectateur, et il n'y a plus la possibilité d'écrire de critique.
C'est ça. Et ça veut dire qu'ils se sont même pas payés de bottes. Non, oui. Mais tu vois, comme ils avaient fait pour Ala 2 et tout ça.
C'est-à-dire qu'ils ont même pas fait une sorte de damage control en mettant des critiques favorables, extrêmement pétées. Non, même pas. Donc ça a été un suicide artistique. C'est d'ailleurs c'est le mot qui a été employé par un des techos sur le film, qui disait que en fait le film tout se passait bien au début. On disait bon voilà on va bien rigoler, mais en fait ils se sont rendus compte en lisant le script qui a été écrit en 6 semaines par 2 mecs fatigués à la coke qui devaient à chaque fois déjà écrire tous les jours des sketchs de merde pour une émission toute pourrie. Donc les mecs ils étaient rincés. Mais bon, ils étaient payés pour leur truc. Ils disaient, bah voilà, vous avez l'occasion de faire un film, c'est pas tous les jours que ça se présente. Donc on y va.
On est d'accord que c'est un film qui a été écrit en 2017.
Oui.
Comment t'écris un film comme ça en 2017 ? C'est... J'arrive pas à comprendre.
En fait, je pense que le film, normalement, il devait être plus trash. Il faut savoir que normalement, il devait être plus trash. On devait voir les gags des trisomiques. On devait les voir en facecam. On devait les avoir, les gros plans, tu vois. Ils avaient préparé des beats, des vrais beats moulés sur la tub de Manuel Ferrara, et c'est véridique. Manuel Ferrara a été payé pour faire mouler sa teub pour le film, sauf que ces plans là ne seront jamais montrés.
Qu'est-ce que tu déterres là?
Ces plans là ne seront jamais montrés.
Ah mon dieu,
si ça se trouve un jour dans 20 ans on aura une director's cut en 4K avec la teub à Manuel Ferrara sur un des trisomiques.
Ferrara cut quoi, d'accord,
exactement. Donc voilà, c'est fou. C'est fou. Il y a plein. En fait, le tournage s'est fait déjà à l'arrache parce qu'il devait tourner durant l'été. Parce que Eric et Quentin n'étaient pas disponibles entre, je crois, septembre et juin, forcément, toi, sur les périodes de l'émission. Et ils faisaient de la radio aussi, en partie. Donc ils étaient toujours un peu en rush. Et vu que c'était les deux stars du film, les deux qui portaient le projet, bah, il fallait en fait trouver une fenêtre de tournage. Et c'était l'été 2016, il me semble. Et bien, ça s'est très très mal passé, hein, parce que visiblement, personne savait. Tout le monde lisait le script et trouvait ça pas drôle. Ils savaient pas trop comment le mettre en scène, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas trop d'idées de mise en scène. Et en plus, la prod a choisi de prendre Stéphane Kazandjian, qui est, selon la production, à l'aise avec la comédie. Alors qu'il nous avait chié quand même avec Sexy Boys. Mais il faut savoir que Stéphane Kazandjian, c'est quand même aussi. Il écrit souvent pour les films de Frank Gastambide. Mmh, donc les Kaira, toutes les merdes comme ça, Taxi 5. Et je me dis, en fait, en regardant ce film, un peu plus trash, franchement, c'est les Kaira.
Ouais, peut-être.
Ouais.
C'est un peu un film pour les Kaira, mais qui a été, en fait, qui a été porté par Eric et Quentin. Même si ça provient de leur scénario, c'est très bizarre.
C'est triste, mais je trouve plus de matière dans les Kaira que dans ça. Hein.
Largement. Les Kaira, ils me tirent quelques rires nerveux.
Vous êtes complètement teubé, ça c'est normal.
Bah ouais,
ça, vous êtes normal.
Mais non, mais en comparaison de Bad Buzz. Ah,
attends, t'as vu la comparaison là, t'as vu ce qu'on parle là quand même. Attends.
Je vais me tourner vers Manu. Manu, Bad Buzz pour toi, déjà, est-ce que tu connaissais Eric et Quentin? Déjà, j'ai envie de te dire.
Ouais. En fait, je matais le petit journal jusqu'à ce que ça parte en couille. C'est à peu près au moment où eux sont arrivés. C'était une émission intéressante jusqu'à ce que ça parte en mode caricatural de l'émission, d'un côté, et à base de starification de tous les intervenants de l'émission. Et là, quand c'était le petit journal, déjà, après, ça s'est amplifié avec Quotidien. Mais du coup, je les connaissais et je n'appréciais déjà pas tellement leur travail. Je me suis tenu éloigné de ce film pendant très longtemps. Merci Luc.
Et je t'en prie, c'est un plaisir.
Et en fait, c'est un non-film total. Il y a rien dans ce film. Déjà, quand tu le lances, qui fait 1h13, tu te dis, OK, ça ne va pas tenir sur grand-chose. Et ça tient sur des lignes de blagues qui sont étalées sur le film. Donc, Marvin, on a lâché parce que, oui, il y a les trisomiques. T'as pas dit le moment où... c'est un d'eux qui va devoir sortir sa tub pour le faire pisser parce qu'il peut pas aller pisser tout seul. Mais bon,
dans une station service en plus, où ils ont acheté des magazines porno parce qu'ils étaient obligés par les gamins trisomiques d'acheter des magazines porno. Et il y a un mec qui débarque dans les chiottes et qui fait oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler la police.
Mm-hmm. Parce que la pédophilie sur les handicapés, c'est drôle.
Ouais, c'est à base de ce genre de blague. Et du coup, un truc que Marvin n'a pas dit, mais ça. Les deux personnages principaux ont un truc. Il y en a un, basiquement, il baise sa mère. Parce que Marianne Chazelle joue à la fois sa meuf et sa mère. Donc, vraiment, ça joue sur l'idée qu'il y a un truc malsain dans l'histoire. Mmh. Et l'autre, il tombe instantanément amoureux de toutes les meufs un peu bonnes qu'il croise. Il y en aura deux dans le film. Il y aura la tante de l'autre, qui va finir par violer un trisomique dans les toilettes pendant l'enterrement, du coup.
Ces enchaînements de phrases, putain.
Et il y aura une migrante, parce que voilà, il y a la partie migrant, où les trisomiques, ça n'allait pas assez loin, les pédophiles nazis non plus, les zoophiles nazis, excusez-moi. Donc, il fallait mettre un petit peu de migrant dans cette histoire. Il y aura une storyline, d'ailleurs, une storyline C, sur la grand-mère de l'un d'eux, celle qui est morte.
Et qui était le plan cul de Pétain,
voilà, bord.
Et qui était le plan cul de Pétain, c'est officialisé par la Peugeot. Le moment qui m'a fait rire, c'est il y a une sorte de syndrome de Stockholm à 1h10 à la Peugeot. J'ai rigolé sur la vidéo de la grand-mère de Eric, je crois, qui se tapait Pétain, quoi, et ouais. Qui a fait une sextape avec.
Merde.
Mais cette intrigue migrant où ça se base sur quelque chose de dramatique. Ils sont au Havre, je crois. Il y a des migrants au Havre. Il y a un camp de migrants et il y en a qui essaient de traverser régulièrement. Et ils tombent sur une petite migrante qui a essayé de traverser. Du coup, je crois que c'est Quentin, tombe instantanément amoureux d'elle, forcément. Et il va y avoir une story. Il va y avoir un dance-off face à des migrants qui l'agressaient, forcément, parce que c'est des migrants. Et ça part en dance-off.
Battle de danse, ouais.
C'est assez incroyable. Il y a un Amazon au milieu d'un camp de migrants parce que voilà, si on quitte à pousser les clichés du truc jusqu'au bout, allons-y. Et il y a le fameux moment où la migrante essaye de s'échapper, c'est pas censé être drôle. Et il y en a un des deux qui jette un caillou sur le camion, du coup elle se fait griller et elle se fait têche. Et plot twist, la résolution c'est que du coup l'autre, bah, il doit l'épouser, quoi, et lui faire la mort 3 fois par jour. Donc 4. Ah oui, c'est, du coup ça négocie en 4, excuse-moi. Et après elle est à fond, quoi, elle est amoureuse à fond, et lui, sa conclusion c'est il finit avec une migrante qu'il a pécho parce qu'il l'a empêché de migrer. ne parlons pas des croix nazies pendant l'enterrement ou des choses comme ça, mais non, c'est un non-film qui enchaîne des espèces de sketchs sur le pire humour possible depuis 15 ans. C'est pas possible de faire ça. Et ça a été vendu pour une sortie au cinéma, quoi. Je me suis posé la question de qui a voulu financer ce film, qui a voulu le faire et qui l'a fait, quoi. Il y a des gens qui l'ont fait et ils doivent l'assumer sur leur CV.
Alors déjà, celui qui a donné cette idée et qui a financé cette merde, c'est Abel Namias. Donc déjà, lui, il faut l'épingler. Il a déjà fait Cinéman et La Beuse, ce qui est en soi un spécialiste de ce genre de conneries. Et oui, le film s'est planté. Oui, tu disais, Marvin, qui c'est qui l'a vu? Bah, pas grand monde, parce qu'il n'y a eu que 50 000 entrées.
Oh.
50 000 entrées, ce qui fait une recette, attention, accrochez-vous, de quasi 250 000, 300 000 euros.
Et il a coûté 4 millions, tu disais?
Sur un budget de 4 millions.
Pas mal.
Donc, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est... Et je pense que tous ceux qui ont assisté à la première séance ou qui sont allés dans le mercredi de sortie, je pense que ce sont eux les héros.
Ouais. Il y a beaucoup de potes dans cette histoire, je pense. Il y a beaucoup de potes.
Ouais, je pense que n'hésitez pas d'ailleurs à faire un tweet. Karim, pour finir, Bad Buzz, toi aussi, à mon avis, Eric et Quentin, c'était un peu flou pour toi déjà?
C'était moyennement flou parce que j'ai eu comme une période où je fais le petit journal et. Leur arrivée, en fait, a créé chez moi une espèce de légère fascination morbide.
Ah.
En mode, bah, en fait, j'ai jamais compris comment ils restaient là. Et pendant des années, je lui dis, Karim, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je veux dire, il doit avoir une sorte d'humour que tu ne comprends pas, tu vois. Il doit avoir une autodérision, quelque chose, une lecture. Alors, bon, moi, je m'étais très vite lassé de ça. Et encore une fois, merci cette émission. Je me retrouve à regarder un film que je n'avais pas envie de voir. Donc, je regarde Bad Buzz. Alors, en vrai, ça va être comme pour Manu et Marvin. Fondamentalement, ce que tu te poses comme question pendant 1h13, qui sont étrangement longues, il y a des pourquoi permanents qui s'enchaînent. Pourquoi. Donc il y a un moment, moi j'ai quand même essayé de me briquer le cerveau en mode à Karim, ils ont intitulé leur film Bad Buzz, ils veulent peut-être te dire quelque chose, tu vois, ils veulent peut-être te pousser dans ton retranchement, soit te faire une Zack Snyder en mode je vais tellement t'en mettre plein la gueule pour que tu comprennes quelque chose. Non. Parce que, en fait, le seul truc qui attire ce film, c'est juste. En fait, l'expérience de ce film, qui est la seule truc positif à en tirer, c'est faire ce qu'on fait, mais avec des gens de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, tu leur racontes le film, juste tu prends une vanne du film et tu le racontes le plus factuellement possible. Et genre, il y a, dans ce qu'on a occulté, parce que c'est sympa d'aller dans l'essai, il y a le passage aussi où, parce qu'il y a une vanne dans le film d'un chat qui pète des culs. Bon,
putain. C'est vrai, le chat, putain.
Putain.
C'est sympa. Je te l'ai laissé volontairement.
Super cool. Donc, il y a tout un délire sur le chat, qui en vrai, le truc qui était pour moi normalement le moins foirable du film, parce qu'en vrai, un chat qui met des branlées, c'est censé être marrant, mais là, non, ça marche pas.
Non.
Et le moment le plus glauque là-dessus, c'est donc à un moment, Quentin, je crois que c'est le grand qui fait l'amour à sa maman quelque part, qui finit blessé. Et donc, il y a Bat, de Bat et Gaël, un gars qui est très drôle sur Internet aussi, qui est un interne dans un hôpital, qui leur dit, viens, je vais te montrer ce que Grave va faire plus tard ou avant, je sais pas, tu vois. Et donc, ils font une partie étudiante. Donc, déjà, tu te retrouves dans une espèce de beuverie avec des nichons, des bits en plastique, comme ça. Genre
c'est un film d'Orcel, en fait.
Mmh. Ouais, tellement. C'est vraiment ça. Et surtout, pour finir sur le meilleur plot, parce que le plot, c'est quand même que les étudiants en médecine, on sait qu'ils font la fête et tout, les faluches, gna. Et surtout, ils attendent que des gars fassent des comas éthyliques pour pratiquer des touchers rectaux. Et, ou un toucher rectal.
Ouais, j'avais oublié cette vanne du toucher rectal. Putain, c'est... Wow, wow.
Et attention, là, ça va très loin. C'est que forcément, on se rend compte que...
T'as vu ça à 9h30.
C'est chaud, putain.
Et attention, c'est pas fini, parce que les gars savent écrire. Cette vanne où clairement les deux se prennent clairement des bras entiers dans l'anus, mais ça laisse pas de séquelles apparemment. Le lendemain, après la post-battle, ils ont besoin d'un scooter. Et là, non pas Deus Ex Machina, mais toucher rectal machina. En fait, le grand noir qui avait mis son bras dans le cul de Quentin avait perdu sa montre en or.
Oui, c'est vrai.
Ce qui permet, dans le Amazon cliché ninja, de troquer
un
scooter.
Le fusil de Tchekhov de la montre.
Mais oui, quoi. Et c'est là qu'avant le film devient un peu fascinant. Ce que tu te dis, c'est qu'avant ils ont dû y croire, parce que au début tu te dis c'est juste une succession de vannes que t'écris, tu vois, et tu essayes de les filmer, tu vois, vidéo YouTube.
Avec un fil rouge insupportable.
Ouais, mais il est quand même, franchement, leur MacGuffin, il est fat quand même, tu vois, faut qu'on fasse un bon buzz. Ok, d'accord, très bien. Mais surtout, c'est qu'il y a un moment, tu sens qu'ils y croient parce qu'ils essayent vraiment de faire suivre des vannes. Et pendant tout le film, tu te demandes juste qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est une expérience terrifiante comme si Marvin, mais en vrai, ce qui m'emmerde, c'est que là, ça devient marrant d'en parler avec vous, et donc ça lui donne une force, et ça m'emmerde, parce que c'est vraiment...
Je comprends.
C'est, j'aime l'humour dégueulasse, noir, souvent, j'aime bien choquer les gens, ni quoi que ce soit, mais à ce stade-là, de louper, dire, c'est que, c'est même pas que c'est pas maîtrisé, c'est avant, tu te poses même la question, en vrai, vous dites ça pour de vrai, je veux dire.
Dites-vous qu'on est plus chaud. Drôle, on est plus drôle que ce film. Vraiment.
Ouais. Et dire.
Non, mais clairement, c'est dire.
C'est voilà, dire.
On est beaucoup plus drôle, nous quatre,
ouais, bah alors, film. S'il vous plaît, les gens, écoutez, si on vous donne envie de regarder Bad Buzz, ne cédez pas, parce que ça serait une raison au film. Parce que ça
nope.
Serait... Non, mais regardez-le en streaming, c'est ce qu'on a fait. Hein, on...
Non.
Si,
non.
Si, bah si. De toute façon, il se trouve pas autrement. Donc,
ne regardez pas.
Pour la science, en fait, vraiment, pour la science, ouais, pour l'exercice de ce soir, mine de rien, des trois films, c'est presque le plus intéressant, parce que c'est vraiment la copie d'un élève en mode « T'as fait quoi, mec ?»
Ouais, non.
T'es en maths, pourquoi t'as fait ça? On fait pas ça. Donc ouais, c'est terrifiant. Et le truc, moi, qui m'a encore plus buté, c'est que déjà, les 1h13, c'était très long. J'arrive au moment du générique sur un site de streaming où elles veulent toutes coucher avec moi parce qu'elles aiment pas.
Et c'est ça.
Là, tu te dis, c'est bon.
Ça d'être une star du podcast.
Ouais. Et là, t'arrives au générique de fin et tu te dis, bon, bah, allez, c'est bon, et je vais cut. Et là, genre, t'as un tweet qui débarque en mode, attention, il y a une scène post-générique. Et là, toi, tu fais quoi? Tu prépares un podcast, tu fais nique ta mère, tu vas regarder jusqu'au bout. Et t'as une scène post-gène, donc t'en as une première où c'est.
Il y a une mid-credit, ouais. La sextape de Pétain.
Voilà, exactement. Mais t'en as une dernière où c'est genre en mode, en fait, t'as Bérangère.
De l'UFC.
Oui. En mode qui reprend son accent belge et qui, ouais, vous faites quoi?
Oh là 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 là, oh ce truc.
Voilà.
Oh,
putain, et en fait, de l'accent belge, c'est pareil, putain.
Ils font un montage.
Déjà, Bérangère Krief. Déjà. Non.
Déjà, ouais.
Allez non. Voir cette post-crédit sur l'UFC où c'est l'Ultimate Fighting Cat ou un truc dans ce genre-là.
Déjà,
en gros, c'est Eric et Quentin qui se foutent sur la gueule sur un montage MMA fond vert dégueulasse en train de se péter avec des chats. Donc, déjà, bon. Je commençais à être nerveusement très atteint, donc juste voir un chat mettre un mawashigiri, ça pouvait commencer à me faire rire. Et à la dernière seconde, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence genre à faire tout ce qu'ils font au long du film que tu ne comprends pas, c'est-à-dire à se caresser, à se toucher les tétons, à se lécher là, avec des chats qui leur tapent dessus. Et là, genre, tu te finis là-dessus, c'est en mode, ouais. Mais quoi?
Ouais.
Pourquoi? Niquez-vous! Voilà, et j'ai fini. Donc, factuellement, ce film m'a énervé. Donc, Bad Buzz, c'est ouf, c'est... Je sais pas si je dois te détester ou te remercier parce
ouais,
que,
non,
part,
mais
que je suis en train de vivre
non.
Là, c'est cathartique. C'est bien.
Vraie exception culturelle, quoi. C'est un truc de fou.
Moi, c'est le film qui a rejoint, enfin, qui est devenu le top shitlist pour moi.
Ouais, je pense clairement que là, ça va être difficile à détrôner, quoi.
Écoutez, pour moi, ça a été un plaisir d'offrir et une joie de recevoir. Et pour le coup, bon, quand même, Karim, soyons urbains.
J'ai sorti Bad Buzz, hein, il faut que ça s'évacue.
Non, mais le truc, moi, qui m'a fait encore plus marrer, enfin, je ne l'ai peut-être pas noté, mais c'est ce triple. Bah, je pense, Marvin, tu as peut-être capté, il y a un triple climax dans le film.
Oui, bah, c'est James Cameron, ouais.
Ouais, bah, on s'inspire toujours des meilleurs.
Bien sûr, ah bah oui.
Donc, on a le viol du trisomique, on a le combat avec le chat, et on a l'enterrement où tout le monde se met à chanter comme des cons.
Il y a même un quadruple climax si tu comptes le dance-off dans le camp de migrants, quoi.
Mais non, c'est pas en même temps.
Ouais, c'est vrai.
Et à l'enterrement, il y a la migrante. Il
oui.
y a les nazis avec les croix gammées. Il y a le sexe avec les trisomiques à grosse bite. Il y a le chat qui se bat.
Et il y a la réanimation du chat aussi sur le cercueil.
Ouais.
Et qui fait
le good buzz.
Le good buzz.
On n'a pas
le
parlé buzz. Du bon buzz. Voilà.
Bon 10 buzz.
Millions de vues parce que tu fais un truc. Nique ta mère, c'est bon. Fatigué, j'en ai marre.
Je voulais finir un peu sur ce film. Faut savoir que Eric et Quentin attendent que ce film soit un succès plus tard. Donc en gros, une sorte de film culte.
Ils vont attendre longtemps.
Je pense qu'ils ont réussi.
Laissez-les attendre, laissez-les attendre.
Moi, je pense qu'ils ont réussi.
Après, ça va dans leur sens, là.
Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vraiment regardent ce film un peu comme ils regardent The Room ou Whitefire, tu vois. Je veux dire, voilà. Et qu'il y a pas mal de gens qu'on a vu aller au spectacle de Eric et Quentin récemment, là, l'espèce de spectacle de stand-up qu'ils ont fait par rapport à Bad Buzz, du coup, quoi. Il y a une petite communauté de gens déviants qui s'y intéressent quand même.
Mais c'est un film qui est souvent cité, souvent reparlé,
sûr,
souvent,
hein.
souvent.
C'est un vrai cas d'école. Hein.
C'est un souvenir. Et pour le coup, ils ont raison sur ce point-là. Et peut-être que finalement, et c'est là où Karim, je vais te niquer un peu le cerveau, est-ce que finalement, ils n'ont pas réussi à faire le meilleur Bad Buzz?
Oui, mais c'est ce que tu dis pendant tout le visionnage du film, et je veux pas leur accorder
c'est
ça.
C'est pas ça. Je pense pas que ça soit.
Allez, c'était de l'analyse de cinéma très concrète. À très bientôt. Merci à tous. C'était Shitlist. Bisous.
Mais non, mais c'est pertinent ce que je dis vraiment, parce que pendant tout le film, tu te poses la question, et c'est le dernier verrou que t'as pendant le film. C'est ça, c'est en mode, est-ce que c'est pas pousser le vice pour vraiment te foutre dans la gueule? Tu vas aimer parce que c'est ça un vrai bad buzz. Dans le fond, t'es capable d'aimer quelqu'un qui chie sur un bébé, tu vois. Et c'est.
Mais non!
J'adore.
Non, Karim,
j'adore. J'adore.
Okay. J'assume.
Vous voulez faire un bad buzz? Engagez Karim comme scénariste, hein, il est très très bon.
Effectivement, il est très bon.
Merci Manu, merci Marvin et merci Karim.
Merci.
N'hésitez pas
merci
à
nous à toi,
soutenir
merci à vous.
Sur le Patreon pour
donner
beaucoup. Donnez du fric, portel, putain, plus jamais.
Ouais, franchement.
On vous aime pour faire ça.
Parce qu'un jour, peut-être nous aussi, on fera notre film. Le film shitlist. Hein.
Ce serait l'histoire de 4 connards.
C'est pas une bonne
5 idée. Connards, 5 ah, connards qui font un ponard, un podcast.
Un ponard.
Un pordard. qui font un podcast en fait sur les voilà. films de merde et en fait à la fin ils font un film. Et du coup c'est méta, putain, je vous ai baisé.
C'est méta, et il se passerait des trucs. Non, ça serait cool, franchement, ouais. Voilà.
c'est pas aller plus loin. Qui arrive, ceux qui sont défoncés, c'est quand même bizarre.
Ouais, mais c'est ce qu'on transmet, c'est la good vibe.
Ouais, c'est ça.
Ouais, exactement. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour vous parler d'une nouvelle liste. Et d'une liste, cette fois-ci, superstar, vous verrez. On s'est fait plaisir hein, pour l'occasion. Une belle liste. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur notre Discord. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify si vous avez apprécié l'émission. Retour à Chouflu.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind du début de la fin. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. Et on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao. Salut.
Salut.
Salut. Salut.